Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une affaire vieille de 12 ans sera bientôt jugée aux assises. Alexandre Despalières, 51 ans, est accusé d'avoir assassiné par empoisonnement Peter Aikin, un millionnaire australien, ancien dirigeant de la maison de disques Warner. D'après l'accusation, il aurait aussi fabriqué un faux testament pour récupérer la fortune de l'homme d'affaires, estimée à 10 millions d'euros. Alexandre Despalières, lui, clame son innocence. Cet épisode de Code Source est raconté par Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, on a choisi de commencer cette histoire le 12 octobre 1987. Le jeune Alexandre Despalières, 19 ans, est invité sur le plateau de FR3 Toulouse.
Oui, il vient de sortir un 45 tours qui s'appelle L'amour à mort. Alors, il est sur le plateau de cette émission de télé.
Je vous propose de commencer tout de suite par une chanson. Alors, L'amour à mort, Alexandre Despalières.
Il a un look très 80s, coupe mulet, chemise ou polo un peu ouvert, veste en cuir, faux air de David Hasselhoff. Il danse en remuant les jambes et en agitant le bras. Bah, c'est très daté, mais ma foi, c'est le clip d'une époque. L'amour à
mort, les rires de son corps. L'amour à mort, l'aimer encore plus fort. À quoi est-ce qu'il ressemble ce jeune Alexandre Despalières ?
Il est indéniablement beau, il a des yeux bleus, c'est magnifique, un regard perçant. Il est très jeune à l'époque, hein, il a 19 ans, il a un look de beau gosse des années 80, si je puis dire.
Où est-ce qu'il grandit ?
Il grandit dans les Hauts-de-Seine, à Bois-Colombes, dans une famille de 3 enfants. Il est le benjamin d'une fratrie de 3 garçons. Il décrit une famille dévouée et unie, sans problème particulier.
Alexandre Despalières est atteint d'une grave maladie depuis l'âge de 16 ans.
Dès ses 16 ans, on lui a diagnostiqué sa séropositivité, donc c'est extrêmement jeune. Alors, il a vécu avec cette maladie toute sa vie, comme une épée de Damoclès. Il le dit lui-même, je voulais vivre à fond pour surmonter cette saloperie de maladie.
En 1988, quand il a 20 ans, Alexandre Despalières va avoir une liaison avec un homme qui a 2 fois son âge et qu'il rencontre en Californie, un certain Peter Aikin.
Oui, Peter Aikin, c'est un Australien et surtout un grand dirigeant de la Warner Music. C'est un producteur de musique réputé, proche de Elton John, de Madonna. C'est un homme très riche et qui est connu dans le monde de la musique.
Il est millionnaire, on peut le dire.
Oui, il est à la tête d'une fortune très très conséquente. Ouais.
Ils vont avoir une liaison pendant quelques mois, 3 mois. Ensuite, les liens vont se distendre.
Oui, les liens vont se distendre, mais jamais se rompre. Ils vont se donner des nouvelles de temps en temps, quelques fois par an. Alors, je ne sais pas exactement s'ils se recroisent ou pas, mais en tout cas, lien distendu, mais pas totalement rompu, effectivement.
2 décennies plus tard, en 2008, en avril 2008 précisément, Alexandre Despalières part en Australie. Et pour ce voyage, il n'est pas tout seul.
Oui, voyage avec son assistant, qui a aussi été son compagnon, Jérémy, quelqu'un qui a une 15aine d'années moins que lui. Il est dans son entourage permanent à l'époque.
Et c'est quelqu'un avec qui il a eu une liaison. En même temps, il a aussi une liaison avec un autre homme aux États-Unis.
Oui, Alexandre Despalières est un séducteur et il a eu effectivement beaucoup d'aventures et parfois au même moment.
Pendant ce séjour en Australie, un jour, Alexandre Despalières va venir frapper à la porte de son ancien amant australien, Peter Aikin.
Oui, c'est une visite impromptue et Alexandre Despalières vient voir Peter Aikin pour lui déclarer sa flamme, lui dire qu'il est amoureux de lui et qu'il veut vivre avec lui.
Il lui raconte aussi qu'il est devenu très riche depuis la dernière fois qu'il s'était vu 20 ans plus tôt.
Oui, il explique qu'il est à la tête d'une société américaine et d'une fortune colossale, supérieure à celle de Peter Aikin, donc il est devenu très riche.
Alexandre dit aussi à Peter qu'il est gravement malade.
Oui, il lui explique qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau et que ses jours sont comptés et qu'il devrait mourir très prochainement.
Peter m'a dit qu'Alexandre avait fait fortune dans la technologie Internet, mais qu'il était mourant. Il avait deux tumeurs inopérables au cerveau.
Visiblement, Peter Aikin est en confiance avec Alexandre.
Oui, ils vont à nouveau cohabiter, alors pas en permanence, ils vont un moment s'installer à Londres, mais ils vont pas vivre ensemble concrètement, mais il y a une nouvelle idylle qui se crée entre eux.
Alexandre explique donc qu'il est devenu richissime et il explique ne pas faire confiance à ses deux frères qui sont cupides selon lui. Il dit avoir peur qu'ils touchent son héritage après sa mort.
Oui, c'est ça. Il explique à Peter Aikin qu'il a beaucoup d'argent. Il va bientôt mourir puisqu'il est atteint d'une maladie incurable. Mais il ne veut pas que ses frères héritent. Et donc, il insiste auprès de Peter Aikin pour conclure l'équivalent d'un pax avec lui pour en faire son héritier.
Alexandre Despalières passe plus ou moins l'été avec Peter Aikin. Tout s'accélère à l'automne, en septembre. Il vient vivre à Londres, dans la demeure du riche Australien.
Oui, je crois que c'est une maison du quartier de Chelsea, quartier chic de Londres. Ils vont quelques moments ensemble, alors je ne sais pas en permanence, mais il va passer du temps chez lui à Londres.
Alexandre est toujours entouré par ses amis.
Oui, avec ce fameux Jérémy qu'il a accompagné en Australie, Vincent, un autre intime qui est lui aussi âgé d'une quinzaine d'années de moins, et une femme, Laetitia, avec laquelle il a été brièvement marié quand il était aux États-Unis. Tout ce petit monde-là cohabite.
Le 10 octobre, Alexandre et Peter vont donc signer l'équivalent d'un pax, un civil partnership. Le but est donc d'éviter que les frères d'Alexandre n'héritent de sa fortune après sa mort. Et pour sceller cette union, les deux hommes vont faire une chose assez surprenante.
À la demande d'Alexandre Despalières, ils vont s'échanger chacun des chèques de 50 000 livres. C'est une somme conséquente, avec pour condition de ne pas l'encaisser. Sauf que très vite, Alexandre Despalières encaisse ce chèque. Alors bon, Peter Aikin est surpris et décide lui aussi d'encaisser ce chèque et il se rend compte que le chèque est refusé. Alors selon l'approche de Peter Aikin, il essaye de demander des explications à Alexandre Despalières, savoir ce qui s'est passé, et il explique qu'à ce moment-là, Alexandre Despalières aurait simulé un malaise réel ou fantasmé et que finalement ça en serait resté là et qu'il n'y aurait pas eu d'explication sur cet épisode.
Dans ce contexte, les deux hommes vont se retrouver à Paris. Peter Aikin passe par Bruxelles le 5 novembre, il arrive à Paris le lendemain, le 6. Et avec Alexandre, ils vont se retrouver dans un hôtel 4 étoiles, là-bas Montparnasse, rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement. D'un mot, Timothée Boutry, dans les jours qui vont suivre, ils ne seront pas seuls dans cet hôtel.
En fait, ils ont réservé deux chambres déjà. Peter Aikin a une chambre et Alexandre Despalières occupe la chambre voisine avec Jérémy et Laetitia et aussi dans les parages. Donc c'est toujours le même aéropage autour d'Alexandre Despalières. Mais en tout cas, ils sont au même moment dans le même hôtel, mais pas dans la même chambre.
Et dès le 6 novembre, donc dès le premier jour, dès l'arrivée de Peter Aikin dans cet hôtel, ça se passe mal pour lui.
Oui, Peter Aikin fait une chute dans les escaliers de l'hôtel, les pompiers sont appelés, il a un hématome au niveau de la cheville, donc voilà, première contrariété lors de ce séjour.
Les pompiers interviennent une nouvelle fois à là-bas Montparnasse, le lendemain.
Oui, Peter Aikin est manifestement ivre, mais il refuse de se rendre à l'hôpital.
Il ira à l'hôpital, justement, le 8 novembre, il est conduit à l'hôpital Cochin.
Cette fois, il est pris de vomissements et de maux de tête, donc son cas semble un peu plus sérieux. Et à l'hôpital, il est examiné par une cardiologue qui l'invite à rester sur place, à rester hospitalisé, mais il refuse. Et finalement, il va quitter l'hôpital.
Le 11 novembre, la Croix-Rouge arrive dans la chambre de Peter Aikin et il est au plus mal.
Oui, une nouvelle fois, il ne se sent pas bien et une nouvelle fois, il est emmené à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière cette fois. Et on va déceler dans son sang un taux élevé de paracétamol. Le paracétamol à haute dose, ça peut être très toxique. Et clairement, le risque de décès est évoqué. C'est même écrit sur un document. Mais en dépit de ce risque, de ces alertes, Peter Aikin, une nouvelle fois, refuse d'être hospitalisé, signe une décharge. Ses proches, Alexandre Despalières, Jérémy, essayent de le dissuader. Mais non, il souhaite quitter l'hôpital.
Il quitte donc l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 12 novembre à 1h du matin, dans la nuit. Et ce jour-là, dans l'après-midi, les pompiers reviennent une nouvelle fois à l'hôtel Abat Montparnasse.
Oui, malheureusement, ce sera la dernière fois, puisque ce sera pour constater son décès, puisque Alexandre Despalières a constaté en début d'après-midi que Peter Hagin se sentait à nouveau très mal. Il a appelé les secours et qui n'ont pas réussi à le réanimer. Donc son décès est prononcé dans l'après-midi à l'hôtel.
Comment réagit Alexandre Despalières à ce moment-là? On imagine qu'il est éploré.
Il est abattu, prostré. Il y a même un médecin de SOS Médecins qui lui rend visite et qui décrit un homme en pleurs, prostré sur son lit.
Dès le lendemain, Alexandre Despalières fait une demande d'incinération du corps d'après l'enquête. Crémation effectuée le 20 novembre. Il y a eu une autopsie. Quelle est sa conclusion?
L'autopsie conclut à une mort naturelle. C'était une pathologie cardiaque et hépatique, c'est-à-dire une maladie du cœur et du foie. Voilà, donc pas d'obstacle à une incinération. Le parquet autorise l'incinération.
La procédure d'enquête décès est classée sans suite le 9 février 2009. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Timothée Boutry.
Oui, parce que les proches de Peter Hagin sont circonspects. À vrai dire, il s'attendait à apprendre la mort d'Alexandre Despalières. Peter Hagin était en bonne santé, il avait 62 ans, mais pas de problèmes médicaux particuliers, alors que Alexandre Despalières était censé être atteint d'une tumeur incurable et n'avait que quelques jours, mois à vivre. D'ailleurs, avant de mourir, Peter Hagin avait expliqué à ses amis qu'il était flatté, mais un peu angoissé à l'idée de devoir gérer la fortune d'Alexandre Despalières. Donc voilà, ça c'est curieux, et également... Ils sont un peu étonnés par les explications parfois changeantes d'Alexandre Despalières sur les circonstances du décès.
Alexandre Despalières qui, selon les proches de Peter Hagin, n'a pas respecté ses dernières volontés.
Peter Hagin avait toujours dit qu'il souhaitait être incinéré en Australie afin que ses cendres soient dispersées sur la tombe de ses parents.
Le 24 février 2009, un ami proche de Peter Hagin écrit au procureur de la République de Paris.
Mais voilà, il lui fait part de ses doutes. Il trouve que l'histoire n'est pas très claire et il va, avec ce courrier et d'autres choses, faire en sorte que l'enquête soit relancée.
La famille de Peter Hagin constate, de fait, des transferts de fonds importants.
Oui, et puisque Peter Hagin et Alexandre Despalières ont conclu l'équivalent d'un PACS, donc après le décès de Peter Hagin, Alexandre Despalières va se servir sur les comptes de son défunt compagnon.
On parle de plusieurs millions d'euros ?
Oui, ce sont des sommes très conséquentes. Selon la famille de Peter Hagin, on est entre 2 et 3 millions de livres.
Il va donc y avoir, suite au courrier, suite aux démarches des proches de Peter Hagin, il va donc y avoir une enquête.
Une enquête est rouverte et une nouvelle expertise toxicologique va être réalisée. Et c'est là qu'on va découvrir qu'il y a un taux anormalement élevé de paracétamol dans le sang de Peter Hagin. C'est troublant. Et donc ça conduit la justice à rouvrir le dossier.
Et au cours de l'enquête, de nombreux témoins vont présenter Alexandre Despalières comme un véritable pharmacien ambulant.
Oui, tous ses proches, même son frère ou des amis, disent qu'il était féru de pharmacopée, de posologie. Son surnom, c'était Vidal, du nom du célèbre dictionnaire médical. Et on explique qu'il se baladait souvent avec une sacoche remplie de médicaments.
Le testament de Peter Hagin, daté du 7 août 2008, va se révéler être un faux.
Oui, c'est toute une partie de l'histoire, en fait, parce que pour hériter aussi de Peter Hagin, Alexandre Despalières exhibe ce testament de 2008 en disant voilà que Peter Hagin a fait de lui son légataire universel. Mais là encore, ça éveille les soupçons des proches de Peter Hagin, puisque le document... Visuellement, la rédaction du testament ne correspond pas à celle des précédents testaments de Peter Hagin. Et il y a notamment un ami qui est très surpris, puisque avant de mourir, enfin, Peter Hagin ne savait pas à l'époque qu'il allait mourir, il lui expliquait « Alexandre me demande de faire de lui son légataire, j'hésite, ça me gêne un peu ». Donc voilà, il savait qu'en octobre 2008, Peter Hagin rechignait à faire d'Alexandre Despalières son héritier. Or, en août, donc, c'est-à-dire avant, un testament aurait fait de Despalières son légataire. Donc voilà, il y a des questions qui se posent sur la réalité de ce testament.
Et on rappelle que tout ça est allé très vite, puisque Alexandre Despalières retrouve Peter Hagin seulement en avril de la même année.
Oui, tout s'est passé très vite en fait. Les retrouvailles, c'est avril 2008, le décès, c'est novembre. Donc c'est une histoire de 6 mois.
Et dans le cadre de l'enquête, les policiers vont perquisitionner un box appartenant à Alexandre Despalières qui va donner des éléments troublants sur ce testament.
Oui, on va trouver quatre modèles de rédaction de ce testament de 2008 selon des formules différentes. Ça donne l'impression qu'il y a eu un essai pour faire fabriquer un testament.
Pour faire un testament, il faut que des témoins signent ce document.
Alors les deux témoins, ce sont les fameux Jérémy et Vincent, qui sont les acolytes d'Alexandre Despalières, ses deux plus proches amis qui ne le quittent pas vraiment en fait.
Les enquêteurs vont s'intéresser à la famille d'Alexandre Despalières, ils vont essayer de parler à ses frères. L'un des deux frères refuse de s'exprimer, l'autre, que nous appellerons Patrick, parle et il présente Alexandre comme un homme obsédé par l'argent.
Oui, il en parle d'un gourou, un escroc, un homme obsédé par l'argent. Bon, voilà, les relations sont complexes dans la famille. Et il parle d'épisodes de mensonges sur des prétendues opérations du foie. Il explique qu'il se déplaçait, dit toujours son frère, avec des poches de sang sous le peignoir, alors qu'en fait, il a constaté qu'il n'avait aucune cicatrice.
Patrick Despalières va aller beaucoup plus loin dans ses déclarations aux enquêteurs.
Oui, il émet des doutes même sur le décès de leurs propres parents, qui sont morts coup sur coup au début des années 2000. Ils sont officiellement morts d'un suicide, leur père d'abord et leur mère ensuite. En fait, le frère d'Alexandre Despalières pense que Alexandre les a drogués, en fait. Voilà, il a des doutes, il ne croit pas à la thèse du suicide, et il les exprime, n'hésite pas à le dire aux enquêteurs, et il pense qu'il a une responsabilité dans la mort de ses parents.
Et il dit aussi qu'Alexandre a capté leur héritage.
Oui, oui, il accuse d'avoir effectivement récupéré les biens de la famille. Sachant qu'il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée, enfin si, mais rien qui n'ait pu étayer des soupçons d'homicide. Donc il n'y a absolument rien qui permet aujourd'hui de dire le contraire, si ce n'est que voilà, son frère a des soupçons, s'appelle son ex-belle-sœur aussi, mais... juridiquement, judiciairement, voilà, ce sont des morts par suicide.
Pour Patrick Despalières, son frère a empoisonné ses deux parents et d'autres membres de l'entourage d'Alexandre disent avoir eu des expériences troublantes avec lui.
Oui, une femme, par exemple, explique qu'elle a senti des étourdissements, des malaises, des évanouissements alors qu'elle côtoyait Alexandre Despalières et que ces épisodes ont cessé alors qu'il n'était plus là. Donc voilà, là encore... pas eu d'enquête particulière, ni d'hospitalisation, mais tous ces témoignages entretiennent un climat sulfureux autour de la personnalité d'Alexandre Despalières.
Timothée Bautry, suite à cette enquête, Alexandre Despalières est interpellé en juin 2010. Lui nie catégoriquement les accusations d'assassinat.
Non, vraiment, il dit qu'il n'est absolument pas impliqué dans le décès de Peter Aikin, son compagnon. Il explique que Peter Aikin prenait beaucoup de médicaments, notamment un médicament qui comprenait du paracétamol, et que s'il y avait un taux élevé de paracétamol, c'est sans doute à cause de ça. Donc lui se dit alors, totalement étranger aux circonstances de son décès.
À la même période, ses deux amis, Jérémy et Vincent, sont aussi interpellés.
Ils disent beaucoup de choses sur le testament, le fameux testament de 2008, et ils expliquent que c'était un faux. Donc ils expliquent voilà, comment tout avait été fait pour fabriquer ce faux testament. Et ils expliquent aussi qu'Alexandre Despalières avait imaginé comment vieillir ce testament pour le rendre authentique en le faisant sécher sur un radiateur et au soleil.
Alexandre Despalières nie toute implication dans ce faux testament. Il reconnaît ne pas souffrir d'une tumeur au cerveau. Et il va effectuer... deux périodes de détention provisoire, au total environ un an et demi. Et pendant qu'il est privé de liberté, il va rencontrer une femme, visiteuse de prison, dont il va gagner la confiance et qui va l'héberger à sa sortie. Mais ça va mal se passer.
Oui, parce que déjà, il va voler de l'argent à cette femme. Il va lui montrer un relevé de compte qui est censé être garni de 600 000 livres, alors qu'en fait, il n'y a manifestement rien. Donc, il va lui prendre de l'argent qu'il ne va pas lui rendre, 7 000 euros. Et il va également laisser la chambre dans un état détestable. Il va uriner dans des bouteilles, uriner dans le lit de son fils et même voler l'ordinateur de son fils. Donc voilà, il va vraiment très mal se comporter.
Un jour, alors qu'il est hébergé par un couple qui lui vient en aide, il va leur poser une colle.
Oui, une étrange question, un peu malsaine, sur, selon eux, la meilleure manière de tuer quelqu'un. Alors, il leur propose plusieurs choix, les pendaisons, le poignard et l'empoisonnement. Et lui, il dit que le mieux, c'est l'empoisonnement.
Pourquoi ?
Parce que ça évite tout contact entre l'auteur et sa victime.
« L'instruction a duré près de 10 ans. Aujourd'hui, Alexandre Despalières est libre, sous contrôle judiciaire. Il se présente comme cofondateur d'une start-up dans le domaine de l'énergie, baptisée Kéops. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Timothée Boutry, ce n'est pas un homme qui se cache ?
Non, non, il n'a d'ailleurs pas de raison de se cacher. Il est présumé innocent, il est juste sous contrôle judiciaire. Il est actif, son compagnon aussi. Voilà, il a une vie active.
Timothée Boutry, vous avez parlé avec l'avocate d'Alexandre Despalières. Qu'est-ce qu'elle dit sur toute cette affaire ?
Elle souligne qu'il y a un énorme manque dans cette instruction, c'est qu'on n'a rien sur les circonstances du prétendu assassinat de Peter Aikin. Elle dit rien ne démontre qu'il a été tué par un tiers. Certes, il y a une enquête avec beaucoup de témoignages, un portrait d'Alexandre Despalières qui est fait, qui n'est pas reluisant. Alors, elle estime, elle, que c'est caricatural, qu'on en fait un personnage de roman. Mais surtout, elle pointe un manque en droit. On accumule des choses, on parle du paracétamol, mais rien ne nous démontre, à tel moment, Alexandre Despalières a mis du paracétamol dans la nourriture de Peter Aikin, ce qui pourrait fonder les suspicions, les accusations. Et ça, on le démontre pas. Donc, à ce stade, elle va faire appel de cette mise en accusation devant la cour d'assises. Elle espère encore que son client échappe à la cour d'assises. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça promet devant la cour d'assises un débat extrêmement intéressant. Parce qu'il y aura un vrai débat juridique qui va se poser pour les jurés. Si assassinat il y a, ou quand, comment ? Les questions fondamentales. Et ça, c'est des questions qui restent en suspens.
Une de tes ex-belles-sœurs t'accuse du meurtre de tes parents.
Le meurtre de mes parents, ça a été un peu lourd à digérer.
Tes parents, tu t'entendais bien avec eux ?
J'adorais.
Et ils sont morts de quoi ?
Mon père a fait, je crois, une rupture d'anévrisme, et ma mère n'a pas supporté ça, elle est morte un an après.
Merci à Timothée Boutry. On rappelle qu'Alexandre Despalières n'a pas encore été jugé. Il est présumé innocent. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Mathias Ardoy, production Stéphane Geneste et Myrène Garaïco-Echea, réalisation Julien Moncouquiole.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.